Compte tenu de l'importance des opérations de compression et détente dans toutes les machines thermiques, nous analyserons sommairement l'influence des principaux paramètres de fonctionnement d'une turbine à gaz sur les performances de la machine, à savoir le rapport de compression-détente et les températures d'aspiration compresseur et d'entrée de turbine. Quand on comprime un gaz, il s'échauffe, comme chacun peut le constater, en gonflant un pneu de vélo. La compression d'un gaz s'accompagne donc d'une augmentation simultanée de sa température et de sa pression. Cet échauffement du gaz, inéluctable, se traduit malheureusement par un surcroît de travail de compression, plus ou moins important selon la qualité du compresseur. Pour fixer les idées, regardons quel est le travail mis en jeu dans le compresseur d'une turbine à gaz. Cette figure présente, pour une turbine à gaz de caractéristiques courantes, traversée par un débit de 1 kg par seconde, la variation de la puissance de compression en fonction du rapport de compression pour une température d'entrée compresseur TEC de 15 degrés Celsius. Je précise qu'on appelle rapport de compression le rapport de la pression de refoulement à la pression d'aspiration et rapport de détente le rapport inverse. Par exemple, pour un rapport de compression de 6, la puissance requise est de près de 220 kW et pour un rapport de compression de 21, elle vaut 500 kW. Comme on le voit, plus le taux de compression est élevé, plus le travail à fournir au compresseur est important. Il est d'ailleurs remarquable que l'accroissement de température dans le compresseur est à peu près égal au travail de compression exprimé en kilowatts et est donc directement lisible sur la figure en graduant en degrés Celsius l'échelle de l'ordonnée. Cette particularité vient d'une part de ce que le débit mis en jeu est égal à 1 kg par seconde et d'autre part de ce que la chaleur massique CP de l'air est proche de 1 kJ par kg et par degré à la température ambiante. Les performances d'un compresseur de turbine à gaz sont très sensibles à la valeur de la température d'aspiration du fluide, ici la température extérieure. Cette dernière évoluant entre l'hiver et l'été de moins 5 degrés Celsius à 35 degrés Celsius environ, elle fait varier la puissance de compression de plus ou moins 7% autour de sa valeur moyenne pour un taux de compression de 16, le minimum de puissance à fournir correspondant à l'hiver, comme le montre cette figure. L'influence de la température d'aspiration sur la puissance de compression explique pourquoi il est toujours préférable de comprimer un gaz à la température la plus basse possible, ce qui conduit à le refroidir avant compression, si c'est techniquement possible. Dans les compresseurs axiaux, il est très difficile de le faire, mais dans certaines turbines à gaz de petite puissance, équipant des hélicoptères, où la compression est réalisée par plusieurs compresseurs centrifuges en série, il arrive que l'air soit refroidi entre deux corps de compression dans un échangeur RR ressemblant à un radiateur automobile ou de moto. Le même phénomène explique pourquoi on installe un intercooler entre un turbocompresseur et l'aspiration d'un moteur diesel. On peut démontrer que le travail de compression taux d'un gaz idéal est d'une part proportionnel à la température du fluide TEC à l'entrée du compresseur, exprimé en Kelvin, et d'autre part une fonction croissante du rapport de compression. Si PA et PR désignent les pressions à l'aspiration et au refoulement du compresseur, taux égale TEC plus 273,15, FC de PR sur PA. Lorsque le fluide ne peut pas être assimilé à un gaz idéal, cette relation reste cependant valable en première approximation. Chacun sait, pour les avoir entendus fonctionner dans la rue ou dans un atelier, comme un garage, que les outils à air comprimé permettent de convertir la pression d'un gaz en puissance mécanique. Ce que l'on sait moins, c'est que le travail produit par un gaz comprimé est d'autant plus important que sa température est élevée. Il est donné en première approximation par une relation analogue à celle d'un compresseur, taux égale TET plus 273,15 FD de PR sur PA, où TET est la température d'entrée dans la turbine. Illustrons ce point en étudiant la détente qui prend place dans une turbine d'une turbine à gaz. Plus la température d'entrée turbine TET égale à la température en sortie de chambre de combustion est élevée, plus le travail fourni est important. L'influence de cette grandeur est significative. Pour un taux de détente de 16, une variation de 100 degrés Celsius de la température atteinte en sortie de chambre de combustion fait varier la puissance de la turbine de plus ou moins 8% autour de sa valeur moyenne. Intéressons-nous maintenant à ce qui se passe dans la machine complète, assemblage d'un compresseur, d'une chambre de combustion et d'une turbine. Dans la chambre de combustion, du type de celle présentée précédemment, l'énergie chimique apportée au cycle sous forme de combustible est convertie en énergie thermique qui sert à porter les gaz chauds à la haute température TET. La chambre de combustion étant à peu près isobare, les pressions en amont et en aval sont les mêmes. Étant donné que la pression atmosphérique règne à l'aspiration du compresseur et à l'échappement de la turbine, les rapports de compression et de détente sont égaux. Nous n'utiliserons donc plus, dans ce qui suit, que le premier de ces paramètres. Cette figure présente, en fonction du rapport de compression, pour une turbine à gaz de caractéristiques courantes, température d'entrée compresseur TEC de 15 degrés Celsius et d'entrée turbine TET de 1000 degrés Celsius, traversée par un débit d'air de 1 kg par seconde, la variation de la puissance de compression, trait rouge plein, de la puissance délivrée par la détente, en tire T, et de la puissance nette produite par la machine, en pointillé. Par exemple, pour un taux de compression de 6, la puissance de compression est de l'ordre de 220 kW et la puissance utile de 280 kW. Si l'on détendait l'air comprimé à la température atteinte en fin de compression, sans apport de chaleur complémentaire, le bilan serait négatif à cause des pertes qui prennent place dans le compresseur et la turbine. Ce n'est que parce que l'on réalise la réaction de combustion qui porte les gaz à haute température que le travail fourni par la turbine est supérieur à celui absorbé par le compresseur. Le maximum de puissance nette est ici obtenu pour un taux de compression de l'ordre de 10, mais l'optimum est assez plat. Cette étude nous a permis de mettre en évidence l'influence des principales caractéristiques de la machine, rapport de compression, température d'entrée dans le compresseur et dans la turbine, sur les performances d'une turbine à gaz. Elle a montré qu'il est préférable de refroidir le plus possible un gaz avant de le comprimer et de le chauffer le plus possible avant de le détendre, les puissances mises en jeu étant proportionnelles à la température absolue à l'entrée du composant. Elle a aussi montré le rôle joué par le rapport de compression ou de détente sur les performances de la machine. Ce sont des points sur lesquels nous reviendrons ultérieurement. Une erreur courante est de considérer que la pression devrait augmenter dans la chambre de combustion, comme dans celle qui constitue des systèmes fermés. Pourtant, le phénomène est analogue à celui qui prend place dans une chaudière à gaz murale, dont la combustion se déroule bien à la pression atmosphérique, le système étant ouvert, ou bien dans les dispositifs que tout le monde connaît, utilisés pour la cuisson ou le chauffage, qu'il s'agisse de gazinières, de réchauds à gaz, de cheminées ou d'autres. Ils ne comportent aucun élément faisant varier la pression, qui reste donc constante.